ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Chers auditeurs de Radio B, je suis ravie de vous retrouver en ce mois de septembre pour une nouvelle saison poétique et musicale qui commence aujourd'hui avec un objet qu'on pourrait qualifier d'OVNI à plusieurs titres. C'est un livre classé dans les romans, mais qu'on pourrait tout aussi bien ranger au rayon de la poésie ou de l'autobiographie. Un auteur, Joseph Pontus, dont c'était en 2019 le premier livre, mais ce sera aussi le dernier, puisqu'il va succomber à un cancer 3 ans plus tard, en 2021, âgé de seulement 42 ans. Un sujet qui est à la fois une vision sans concession du monde du travail, un état des lieux de la condition ouvrière, et en même temps un questionnement sur les rapports humains, avec des situations où la gravité voisine avec l'humour, et en plus de tout cela, un hommage constant à la littérature, comme une consolation qui permet au narrateur de supporter la violence du réel lorsqu'il est à son poste de travail, et aussi comme une force de création par les mots qu'il pose chaque soir sur la feuille pour dire son vécu. Et ce sont ces feuilles mises bout à bout, ces feuillets d'usine, comme il les nomme, qui composent ce livre intitulé « À la ligne », avec un double sens du mot « ligne ». Premier sens, la ligne de production de l'usine, celle qui détermine le rythme de travail de l'ouvrier, qu'on appelait la chaîne autrefois et qu'on a remplacée par « ligne », un euphémisme jugé sans doute moins déshumanisant, tout comme on préfère maintenant parler de collaborateur plutôt que d'ouvrier, mais la dureté du travail, elle, n'a pas changé. Deuxième sens du mot, la ligne sur le papier, pour l'écrivain qui s'impose chaque soir, en dépit de la fatigue, d'écrire ses feuillets qui sont comme un exutoire à la violence des conditions de travail. Je vais donc vous lire aujourd'hui des extraits de « À la ligne », écrit par Joseph Pontus, un livre que le hasard m'a fait choisir cet été à l'étal d'un bouquiniste. Et le hasard, dit-on, fait bien les choses. Après l'avoir lu, j'ai cherché des infos sur Internet et j'ai réalisé que sa sortie, en 2019, avait été très remarquée, mais moi je n'en avais rien su à l'époque. Et c'est aussi par hasard que j'ai entendu à la radio tout récemment une retransmission d'un concert donné en juin dernier par la flûtiste syrienne Naysam Jalal, une musique qui m'a saisie avec la même force que l'écriture de Joseph Pontus. Alors je me suis dit qu'il y avait peut-être lieu de les rassembler pour cette émission. Le disque de Naysam Jalal, sorti en mai 2005, s'appelle « Souffle ». Ce sont 8 morceaux qu'elle a composés et qu'elle joue chaque fois en duo avec un instrumentiste différent qui sont tous des souffleurs comme elle. Ce sont donc des pièces tirées de cet album que vous allez entendre en contrepoint de la prose acerbe de Joseph Pontus. Voici tout de suite le premier souffle qui réunit Naysam Jalal au saxophoniste Émile Parisien.
Thank you.
Ce livre, qui est à Christelle, elle lui doit tout, est fraternellement dédié aux prolétaires de tous les pays, aux illettrés et aux sans-dents avec lesquels j'ai tant appris, ri, souffert et travaillé. À Charles Trenet, sans les chansons duquel je n'aurais pas tenu. À MDG et à ma mère. Qu'est-ce qui a amené Joseph Pontus en Bretagne, lui qui était éducateur en région parisienne? Eh bien, c'est l'amour de Christelle qui lui a fait quitter Paris et un emploi stable. Ne trouvant pas là où il a atterri de boulot dans le social, et parce qu'il faut bien vivre, il est devenu intérimaire dans l'agroalimentaire. Il y a deux parties dans le livre, correspondant aux deux lieux de travail, l'usine de poissons et l'abattoir. La première partie commence par une citation de Guillaume Apollinaire, l'un des auteurs préférés de Pontus. « C'est fantastique, tout ce qu'on peut supporter. » À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Prise au mot, j'embauche le lendemain à 6h du matin. L'embauche. Ce ne peut être que cet immense couloir blanc, froid, au début duquel sont les pointeuses autour desquelles on se presse la nuit à l'heure de l'embauche. 4h, 6h, 7h30 du matin, suivant le travail assigné. Le dépotage, soit les caisses de poissons à vider. Le marayage ou l'écorchage, soit la découpe de poissons. La cuisson, soit tout ce qui concerne les crevettes. Je n'ai pas encore eu le malheur d'être de l'après-midi ou de soirée. Commencer à 16h, finir à minuit. Ici, tout le monde s'accorde à dire, et j'en conviens jusque-là, que plus tu commences tôt, mieux c'est. Sans compter les heures de nuit, payées 20% de plus. Comme ça, t'as ton après-midi. Quitte à se lever tôt, autant se lever tôt. Mon cul, tes 8h de boulot, c'est 8h de boulot à quelque heure de la journée. Et puis, quand tu rentres, à la débauche, tu rentres, tu zones, tu comates. Tu penses déjà à l'heure qu'il faudra mettre sur le réveil. Peu importe l'heure, il sera toujours trop tôt. Après le sommeil de plomb, les clopes et le café du réveil avalé à l'usine, l'attaque est directe. C'est comme s'il n'y avait pas de transition avec le monde de la nuit. Tu re-rentres dans un rêve ou un cauchemar. La lumière des néons, les gestes automatiques, les pensées qui vagabondent, dans un demi-sommeil de réveil. Tirer, tracter, trier, porter, soulever, peser, ranger. Comme lorsque l'on s'endort. Ne même pas chercher à savoir pourquoi ces gestes et ces pensées s'entremêlent. À la ligne. C'est toujours s'étonner qu'il fasse jour à l'heure de la pause quand on peut sortir fumer et boire un café. Je ne connais que quelques types de lieux qui me fassent ce genre d'effet absolu, existentiel, radical. Les sanctuaires grecs, la prison, les îles et l'usine. Quand tu en sors, tu ne sais pas si tu rejoins le vrai monde ou si tu le quittes. La débauche, quel joli mot qu'on n'utilise plus trop sinon au sens figuré. Mais comprendre dans son corps, viscéralement, ce qu'est la débauche et ce besoin de se lâcher, se vider, se doucher pour se laver des écailles de poisson. Mais l'effort que ça coûte de se lever pour aller à la douche quand tu es enfin assis dans le jardin après 8h de ligne. Demain, en tant qu'intérimaire, l'embauche n'est jamais sûre. Les contrats courent sur 2 jours, 1 semaine tout au plus. Ce n'est pas du Zola, mais on pourrait y croire. On aimerait l'écrire le 19e et l'époque des ouvriers héroïques. On est au 21e siècle. J'espère l'embauche. J'attends la débauche. J'attends l'embauche. J'espère. Attendre et espérer. Demain, ô mes tonneaux des Danaïdes, comme disait l'Apollinaire, puissant fond de la 40aine de tonnes de crevettes quotidiennes, je reprends mon usine. Je retourne aux crevettes. Dans le simple rudoiement de ceux qui n'ont que leurs bras à vendre, leur paix à lâcher, leur blague de cul à 6h du matin, quoi qu'ils chantent, qu'ils se posent ou non des questions existentielles en triant leurs crevettes. Je serai des vôtres, travailleurs de l'usine, des questions sur le grand tout, sur rien, sur la littérature, sur le reste, sur les crevettes. Ce qui revient fondamentalement au même. 8 heures par nuit, par jour, derrière des machines. Sept mois qu'il est au poisson pané. Il a 20 ans. Il en a plein le cul. Entre le bizutage furieux qu'il a subi, l'ambiance de merde et la monotonie lancinante des heures de nuit, à bosser, toujours bosser, et ses poissons panés, congelés, qui n'en finissent jamais. Au milieu de la nuit, le bruit des machines s'adoucit un peu. Il me demande pourquoi je suis à l'usine. Je lui réponds, comme à tous, la simple et belle vérité. Avoir tout quitté pour épouser celle que j'aime. S'être marié. La joie d'être là et l'usine, bah, faut bien bosser. Un bébé pour bientôt, s'enquiert-il de suite? On espère, tout autant qu'on y travaille. Lui aussi va se marier bientôt. Beaucoup de choses à préparer. Il panique un peu, mais ils avancent. Plus loin, dans les bribes de mots que nous échangeons, il m'apprend que j'habite non loin de là où travaille son copain. Quelques jours plus tard, je file un coup de main dans une autre équipe. On me parle de son mariage. Il voulait se paxer, mais avec la nouvelle loi, c'est plus simple pour adopter s'il se marie. Je souris tendrement. Je pense fort à Madame Taubira, qui a eu 6 raisons qu'un petit PD ouvrier puisse avouer à l'usine, fût-ce plus dur chez ses parents, qu'il est gay, qu'il a la loi pour lui, et même s'il a dû en chier et que le bizutage dur et que le bizutage dut être un peu raide, ils vont se marier. Au distributeur de canettes, je me prends un Perrier à la fin de ma nuit. Champagne. Les dépoteurs. C'est un peu comme les ouvriers du livre de la CGT. Seuls, un peu planqués, avec des avantages considérables par rapport au reste des ouvriers de l'usine. On peut se permettre d'arriver 5 minutes en retard à l'embauche à 4 heures du matin. La température de la salle de 8 degrés Celsius semble plutôt douce. On bénéficie de 2 pauses réglementaires plutôt qu'une imposée par le chef. Petite pause de 10 minutes, clope, café à 6 heures. Pause de 30 minutes à 8h30, café, clope. Le boulot n'est pas si dur, répétitif. Vider des caisses de 25 kilos de poisson pour remplir d'autres caisses de 25 kilos. Certes, on dirait les shaddocks, mais c'est l'usine et ça fait les muscles. La machine ne tombe jamais en panne et les poissons changent. Des lieux, des merlans, des lieux noirs et des lieux jaunes, des sabres, des aigles fins, des lottes et surtout et encore des lieux de toutes sortes. Ça évite la répétition de la monotonie. Entre quelques tonnes de sabres de grenadiers et de lieux, aujourd'hui, j'ai dépoté 350 kilos de chimères. J'ignorais jusqu'à ce matin qu'un poisson d'un tel nom existât. Mes chimères sont arrivées après la pause. Drôle de poisson avec 2 belles nageoires en bas du ventre, pouvant ressembler à des ailes. Peut-être que leur nom vient de là, ou non. Ça a suffi à mon bonheur de la matinée, me dire que j'avais dépoté des chimères. Ce 31 après-midi, je passe à l'agence d'intérim récupérer mon acompte, vu que nous sommes réglementairement payés le 11 du mois suivant. L'acompte s'élève au maximum à 75% du temps travaillé. Les ressources humaines de l'usine n'ont pas encore validé mes horaires de ma dernière semaine de travail, soit payé 50% de ce que j'escompte. Une chimère de plus. Il faut les voir, nos visages marqués à la pause, les traits tirés, le regard perdu rivé au loin de la fumée des cigarettes, nos gueules cassées. Si j'osais le parallèle avec la Grande Guerre, nous, petits troufions de l'usine, attendant de remonter au front, ou plutôt mercenaires, non plus des Marie-Louise, des conscrits de l'année, mais de vagues engagées volontaires dans une guerre contre la machine, perdue d'avance, certes, mais qui rapporte au moins une solde mensuelle. La pause, cette foutue pause, espérée, rêvée, attendue dès la prise de poste, et même si elle sera de toute façon trop courte, si elle vient trop tôt, que d'heures encore à tirer, si elle vient trop tard, n'en plus pouvoir, elle sera. Le capitalisme triomphant a bien compris que, pour exploiter au mieux l'ouvrier, il faut l'accommoder juste un peu. À la guerre comme à la guerre. Repose-toi 30 minutes, petit citron. Tu as encore quelques jus que je vais pressurer. 30 minutes, c'est tout dire. La pointeuse est évidemment avant ou après le vestiaire, suivant que l'on quitte ou prenne son poste. C'est-à-dire au moins 4 minutes de perdu, en se changeant au plus vite. Le temps d'aller à la salle commune chercher son café, les couloirs, les escaliers, qui ne semblent jamais en finir. Le temps perdu. Cher Marcel, je l'ai trouvé, celui que tu recherchais. Viens à l'usine, je te montrerai vite fait le temps perdu. Tu n'auras plus besoin d'en tartiner autant. Enfin à l'air. Enfin dehors. Clope. Regardez l'heure sur le portable. On va dire 20 minutes. Le bruit lancinant de l'usine me bercerait presque. Certains s'isolent dans leur voiture, d'autres mangent. Des joints sont fumés au loin, à ce que je crois sentir. Je suis assis sur un banc et j'allume une roulée de tabac brun au mégot de ma fin de roulée. Regardez l'heure. Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Rallumer une clope au cul de la dernière. Il reste un petit quart d'heure. Combien de temps pour remonter, se changer, aller pisser ? Le chef ne saurait évidemment tolérer que tu ailles aux chiottes l'heure précédente ou suivant la pause. Tu n'as qu'à attendre un peu. T'avais qu'à y penser avant. Enfin, je sais pas, mais j'imagine. Les bouffées de clopes deviennent plus nerveuses, les portables regardés plus fréquemment, frénétiquement, à mesure que le temps passe, ne se rattrape plus. Allez, faut y aller. Tâchez de gratter 30 secondes d'air du dehors en sachant qu'il faudra encore plus speeder dans les couloirs, les escaliers, le vestiaire. Dernière latte de clopes, dernier coup d'œil au portable, il faut remonter. Je pense toujours au bon camarade Apollinaire à ce moment-là. Je l'imagine avec sa pipe dans la tranchée, juste avant le coup de sifflet, qui pensait à Lou. Moi, je pense à mon épouse. Tandis que les yeux fixés sur la montre, j'attends la minute prescrite pour l'assaut.
Mm-hmm.
7h et des brouettes. Je décartonne des caisses et des caisses de 20 kilos de crevettes surgelées avant qu'elles ne partent à la cuisson. Presque la joie du boulot physique. Gestes automatiques. 9h32, la pause dehors. Vue sur la sablière à côté de l'usine, la rosée traîne encore ses gouttes, c'est presque joli. On se contente de ce qu'on a. Au loin, le Blavet et quelques voiles qui attendent l'Atlantique autant que moi je n'attends pas la reprise de poste. Je reprends un café vite fait à la terrasse fumeur. Le nouvel intérimaire s'est fait piquer par une crevette surgelée ce matin. Une vraie saloperie, ceci dit, du fait du risque de prurite et du bordel subséquent en absence de soins. Heure inconnue, au tri des crevettes post-cuisson, de loin mon poste préféré, contemplatif, monastique, stoïcien, mystique presque. Je regarde défiler les crevettes qui sortent sur un tapis après la cuisson au rythme de 3 tonnes par heure. J'ai calculé en même temps, soit 1 tonne 5 la demi-heure, soit 750 kilos le quart d'heure, soit 250 kilos les 5 minutes, 50 kilos de crevettes me passent sous les yeux par minute. Je devais prendre une longue mission lundi, 2 mois au bulot. Le coquillage le plus con qui soit au monde. 2 mois de boulot. C'est retardé d'une semaine, les machines ne sont pas encore calées. C'est vendredi et il pleut comme la Bretagne sait le faire. Je n'embaucherai pas lundi à 3h du matin comme je m'en faisais une joie. À prendre le vélo dans la pluie bretonne à l'heure où nombre se couche. Bien sûr que j'ai fait bonne figure au téléphone quand l'intérim m'a appelé, malgré le « oh merde putain » que j'ai laissé échapper. Le week-end n'a plus le même goût. Pas celui du repos avant la bataille. Pas de tonnes de bulots à travailler lundi pour 2 mois assurés, pas sûr de bosser la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il pleut sur Nantes, mais il pleut sur l'Orient. Et j'ai le cœur chagrin. La vie est une tartine de merde dont on mange une bouchée tous les jours, philosophait ma grand-mère, les jours d'un peu moins bien. C'est faux. La merde est une tartine de bulot à décharger par palette quand une pièce d'un tapis roulant est en panne sur une ligne de production. Si ce n'est pas encore l'enfer, qui finira bien par arriver, c'est bien un putain de purgatoire de merde. Purgatoire de douleur, du fait des positions incohérentes que j'essaie de trouver pour faire dans ce foutu tapis roulant. Le gouffre de la machine réclame son lot incessant de bulots. Je palis le tapis. Je suis le lien. Il faut que la production continue. Les chefs savent, mais ne peuvent rien. Depuis hier qu'il y a une panne, on n'en voit pas un dans notre atelier. Les mécanos ne comprennent pas. Une pièce a été commandée, mais ils ne sont même pas certains que l'affaire sera réglée. D'ici quand ? Personne ne sait. De là à ce que nos dos pètent, que nos reins éclatent, nos bras s'écartèlent. Hier, tentant de trouver une solution physiquement acceptable, j'en étais à porter à bout de bras les sacs de 10 kilos de bulot pour les faire passer dans un trou de la machine, comme on tenterait de mettre un panier en jouant au basket. Complètement con, mais... Dans ces moments où tu ne sais plus que faire pour soulager les autres parties de ton corps, tu en sollicites une nouvelle, te disant que la douleur, ailleurs, ne saurait être que moins pire. Il faut que la production continue. La répétition des douleurs, la vanité de l'affaire, tout ça pour des bulots qui ne s'arrêteront jamais. Le fait de voir au loin des collègues amener encore des nouvelles palettes, les bulots glissant ensuite dans le gouffre de cuisson de la machine, lentement, presque méthodiquement, inexorablement. Certains, ayant vécu une expérience de mort imminente, assurent avoir traversé un long tunnel inondé de lumière blanche. Je peux assurer que le purgatoire est juste avant le tunnel de cuisson d'une ligne de bulot. Pourquoi donc continuer ? Pour maintenir une production dont je n'ai rien à foutre ? Pour tester mes limites ? pour me dire que le bulot n'aura pas ma peau, mes bras, mes reins, mon dos et surtout mon crâne. C'est la viande verte de mon cerveau qui tient, qui tiendra. Et même si nous ne sommes que mercredi et que l'enfer sera sans doute ce nouveau samedi travaillé, l'usine serait ma Méditerranée sur laquelle je trace les routes périlleuses de mon odyssée. Les crevettes, mes sirènes. Les bulots, mes cyclopes. La panne du tapis, une simple tempête de plus. Il faut que la production continue. Rêvant d'Ithac, nonobstant la merde. Fini pour toi, à la prochaine, a dit le chef en fin de journée, sans autre forme de procès. C'est pas 6 semaines de mission coquillage et crustacés en commun, bigorneaux, bulots, crabes royaux, langoustes, langoustines, tourteaux, qui vont changer mon statut d'intérimaire. Au bout de 6 semaines, même pas sûr qu'ils connaissent mon prénom. La poignée de main du matin à la nuit et son maigre sourire de ne pas me voir manquer à l'appel. À la pelle. Fini pour toi, un 27 décembre, le début aux fruits de mer, un 14 novembre. Fini pour toi, l'embauche à minuit et demi, les 6 jours sur 7 travaillés, les machines en panne dès le 3e jour de la mission, ce qu'on a dû inventer pour en chier à peine moins que d'humains, les bulots qui tombent dans les bottes plus gênants encore que des scrupules, l'odeur qu'on ne sent plus. La fureur de 10 chefs qui débarquent un 21 décembre quand la dépose de langoustes ne va pas assez vite à leur goût. Le mystère de pourquoi ils s'en vont 3 heures plus tard, tout sourire, alors même que la ligne tourne moins vite. Pendant ces 3 heures de pression de cinglé, le stress absolu, la sueur froide dégoulinante de 20 yeux de chefs qui scrutent ton moindre geste, l'angoisse de rater ta manœuvre aux transpalettes, de mal donner un simple coup de pelle. Fini pour toi. Les tonnes de bulots à bien différencier et à passer selon l'ordre prioritaire suivant sur ma ligne de production. Les bulots lavés, les bulots vivants, les bulots congelés. Fini pour toi. Ce 23 décembre, nuit d'apocalypse bulotesque. Plus de 5 semaines que nous sommes au turbin, 6 jours sur 7. Les rumeurs de l'usine dans la semaine avaient été folles, contradictoires. Travaillerons-nous le samedi 24 ? Trêve de Noël, un coup c'était oui, un coup non. Le matin de la nuit du 23, il se dit que si nous passons 15 tonnes de bulots dans la journée, on aurait notre samedi. Mais ce ne sont que des rumeurs. Accord implicite de notre équipe de 3. Le repos plutôt qu'une journée payée. Les proches plutôt que les poches. Alors on attaque comme des furieux, au-delà de la fatigue. On y est, on enrage contre le moindre arrêt de la ligne. On ne compte même pas sur l'équipe d'après pour finir le travail. On raccourcit chacun sa pause d'un quart d'heure. On sait que c'est peut-être en vain et qu'on devra revenir demain. On sait que c'est peut-être une ruse du patron et qu'on aura notre samedi de toute façon. Mais on s'en fout. Plus de 13 tonnes sur 15. On a passé plus de 13 tonnes de bulots à 3 en 8 heures. On se marre, se tape dans les mains. Se tombe dans les bras. À lundi, dit le chef. On a gagné une guerre contre le bulot et nous-mêmes. Un vendredi 23 décembre 2016. Les 2 jours de Noël seront les plus précieux du monde et les plus rapides. À peine le temps du repas de famille dominicale qu'il faut rentrer après le café. Demain l'embauche est si tôt. Fini pour toi. À la prochaine, petit intérimaire. On ne t'a pas trop engueulé, t'as pas été en arrêt maladie. Pire, en accident de travail, la production ne s'est jamais arrêtée. À la prochaine, l'usine. À la prochaine, les sous. Les sous à aller gagner, racler, pelleter avec les bras, le dos, les reins, les dents serrées, les yeux cernés et éclatés. Les mains désormais calleuses et rêches, la tête qui doit tenir, la volonté, bordel. À la prochaine. Déjà, il me tarderait presque de retrouver l'usine. comme si je n'étais pas encore allée au plus loin du possible, du bout de mon épuisement, au bout du travail, au bout de mon travail sur l'usine et moi-même. Fini pour toi. À la prochaine, qu'il a dit le chef. Enfin, un des chefs. C'est pas les chefs qui manquent. C'est le boulot qui manque. C'est les sous qui manquent. Tant qu'il y aura des missions intérim, ce n'est pas encore le point final. Il faudra y retourner à la ligne. Fin des 6 semaines à l'usine de Poisson. Fin de la première partie du livre. Pour les musiques que vous avez entendues, il y a eu 3 duos après celui avec Émile Parisien. 2 duos successifs avec les clarinettistes Yom, puis Louis Clavis. Et le dernier était avec le saxophoniste Sylvain Rifflet. Changement de décor maintenant. Après les crevettes et les bulots, c'est l'abattoir. Et comme vous allez vous en rendre compte, c'est sans doute pire. À l'abattoir, j'y vais comme on irait à l'abattoir. C'est peut-être l'aboutissement, le paradigme, le résumé, le symbole et même bien plus que ça de ce que peut être l'industrie agroalimentaire. Pourtant, je ne fais que nettoyer de nuit un atelier de découpe de porc. Découpeurs qui, j'imagine, interviennent après que les tueurs ont fait leur œuvre. Les poissons et bulots, les plats cuisinés et tout le reste d'autrefois me semblent aujourd'hui inoffensifs, gentillets, doucereux, même si le boulot était dur. Je dois nettoyer une chaîne de découpe. Il ne reste que les traces du travail de la journée des ouvriers. J'arrive avec mon tuyau, tout est rouge de sang et blanc de gras. Je passe le jet pour prélaver. Un collègue passe la mousse qui lave. Je rince. Un collègue passe le produit qui relave et ne mousse pas, mais nous oblige à mettre des masques à gaz du fait de l'odeur et du danger. Je re-rince, on fignole, on range, fin du taf. L'intérim m'a appelé à 16h30 le lundi pour une embauche le soir même à 20h. Comme dans toutes les autres usines, on s'en fout de qui je suis. 2 bras et puis basta. Je n'ai jamais tenu un tuyau de nettoyage industriel. Je ne sais même pas faire le ménage chez moi. Ce n'est pas grave. L'usine est immense, monstrueuse. Un chef me dit « Atelier découpe porc ». Je le suis. La porte s'ouvre et l'atelier me semble grand comme la totalité d'une de mes anciennes usines. Du sang partout. Le premier truc, le sang. Mes yeux cherchent à comprendre l'agencement de l'atelier et de ses espaces. Et puis, des lambeaux de cochons partout, et pas que des lambeaux, des groins, des travers, des pieds et du gras de cochon si caractéristique, partout. Je me dis, mais tu croyais quoi, bonhomme ? On t'avait bien dit que t'allais devoir nettoyer un abattoir. Thank you. Ah, Dieu, que la guerre est jolie, qu'il écrivait le Guillaume du fond de sa tranchée. Nettoyeur de tranchées, nettoyeur d'abattoirs, c'est presque tout pareil. Je me fais l'effet d'être à la guerre. Les lambeaux, les morceaux, l'équipement qu'il faut avoir, le sang, le sang, le sang, le sang. Là, j'approche. Je ne suis plus au porc mais au bœuf, et presque en première ligne, ou pire, au cœur des lignes ennemies. Au local Codéchet, juste un demi-étage en dessous de la tuerie. C'est-à-dire que je nettoie les déchets de tout ce qui ne sert à rien dans le bœuf et qui est jeté un demi-étage au-dessus dans des énormes tuyaux, dans d'énormes cuves que je nettoie avec mon jet haute pression. Quelque chose avant l'abattoir? Oui, éducateur dans le social. Puis, ben, j'ai quitté la région parisienne, épousé celle qui m'attendait. Puis, il faut bien bosser. Et toi? Bah, moi, tout pareil, j'étais dans l'armée. J'ai démissionné pour rester près de ma femme et je suis là. Vie minuscule et parallèle. Au-delà de me rire du militaire qui finit bouché, l'inverse serait-il pire, mon rire ne dure pas longtemps. Nous poussons des carcasses de bêtes mortes. Regrette-t-il ses opérations extérieures? Voit-il dans ces bêtes mortes les enfants de Sarajevo ou de Kigali? Est-il plus heureux, pépère, ici, non loin de la mer avec sa femme, à simplement pousser autant d'animaux morts? En poussant mes carcasses, bien sûr que je repense à tous ces mômes vivants que j'ai accompagnés, qui sont devenus adultes aujourd'hui. Certains sont morts aussi. Mais je suis heureux ici, avec mon épouse, plus qu'heureux, non loin de la mer, quitte à charrier des animaux morts, nous poussons nos carcasses. Tout le monde ne fait, au fond, que de trimballer ses carcasses. Une journée ordinaire, comme il y en a tant d'autres. Tous les jours, presque, sans ces micro-événements qui méritent d'être racontés. Un nouvel atelier, une saillie d'un collègue, un lendemain de match ou d'élection. Tâcher de raconter ce qui ne le mérite pas. Le travail dans sa plus banale nudité, répétitive. Des gestes simples, durs, des mots simples. Rien qu'une journée comme tant d'autres à pousser des carcasses, ou plus généralement, à faire ce pour quoi je suis payée. Je vois la fumée de l'usine avant de quitter la nationale. Elle se mêle à la fumée de l'usine de croquettes animalières qui est juste à côté. Chaque jour, je me dis, c'est comment qu'ils bossent ceux de l'usine de croquettes? C'est quoi leur boulot? Je serai bien une semaine pour voir. L'odeur de l'abattoir, dès que j'ouvre la portière de la voiture. Odeur de viande, de mort et d'industrie à 5 heures du matin, qui me donne presque envie d'une grillade avec des frites et un quart de rouge. La passerelle pour entrer dans l'usine est interminable. J'embrasse rituellement par 2 fois, 6 fois mon alliance. Au vestiaire, pisser, mettre les bouchons d'oreilles en premier, le masque à barbe, enfiler la tenue, la botte gauche avant la botte droite, toujours. Sans doute un souvenir d'une vieille pub avec Zidane pour de l'eau minérale. Et même si je ne serai jamais le champion du monde de l'usine, descendre dans l'arène, voir les carcasses à déplacer comme autant d'adversaires, s'étirer, sentir encore l'effet de l'anti-inflammatoire pris avec le copieux petit-déjeuner, attaquer le boulot. L'usine est, plus que toute autre chose, un rapport au temps. Le temps qui passe, qui ne passe pas. Évitez de trop regarder l'horloge. Rien ne change des journées précédentes. Le chef passe saluer, je pousse mes carcasses. Parfois m'en prend une par surprise dans le dos, poussée par un autre gars. Choc sourd, grognement réfréné, putain de dos qui prend. L'axe du mal, cervicale, colonne, lombaire, une charpie de dos. Les bras, ça va, ils se musclent, on dirait. Les mains aussi. Ma mère de passage, il y a peu, m'a dit qu'avant j'avais des mains d'intellectuel. Je me souviens de la vanne à la con. C'est quoi la différence entre un ouvrier et un intellectuel ? L'ouvrier se lave les mains avant d'aller pisser, l'intellectuel après. Je ne me lave plus les mains, pas envie de devenir schizo. On se salue en se serrant la pogne à l'embauche, comme partout. Ici, les serrements des mains sont particulièrement roides. Mes mains ne sont plus broyées à ce contact. Mais le dos, putain, parfois elle crie ma colonne. Je l'encourage, sois sage ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille. Je pousse des carcasses, sans fin. Je ne fais que gagner ma vie. Non, gagner des sous. Non, vendre ma force de travail, voilà, c'est ça. À quand la pause ? Je chante pour passer le temps. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Est-ce ainsi que je vis ? Et même je n'y comprends rien de n'en plus pouvoir. Je travaille et j'encule tous les cons du travail social, mon soi-disant vrai métier, qui m'ont recalé à la suite d'entretiens d'embauche. Je suis un travailleur, moi. Je ne passe pas mon temps à boire du café en fumant des clopes, en pérorant sur des situations inextricables. Mais pas de mépris, non. Ne pas enrager. Pause. Boire du café. Fumer des clopes. L'immense passerelle. Mon épouse au téléphone vient généralement de se réveiller, sa tendre voix avant qu'elle ne boive son café. Puis encore la botte gauche au vestiaire, d'abord. J'y retourne, je repousse mes bœufs, je sue comme un bœuf, d'autant que l'effet de l'anti-inflammatoire commence à s'estomper. Encore 2 heures et c'est la quille, la débauche. Encore 1 heure et demie, la durée d'un match de foot. Et on verra demain. Plus qu'une heure, ça devient bon. Je ne pousse plus avec mes bras, mon corps, mon dos. C'est mon tout, mon rien qui pousse. Oui, pour passer le temps, je chante. C'est la fin. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie en écrasant des fleurs sauvages et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube aurait enfin sa chance. Barbara, Perlimpinpin. À l'usine, on chante. Putain qu'on chante. On fredonne dans sa tête. On hurle à tue-tête couvert par le bruit des machines. On sifflote le même air en têtant pendant 2 heures. On a dans le crâne la même chanson débile entendue à la radio le matin. C'est le plus beau passe-temps qui soit. Et ça aide à tenir le coup. Penser à autre chose, aux paroles oubliées, et à se mettre en joie. Quand je ne sais que chanter, j'en reviens aux fondamentaux. L'international, le temps des cerises, la semaine sanglante, traînait, toujours traînait, et encore le grand Charles, sans qui nous serions tous des comptables, comme disait Brel. Traînait qui met de la joie dans ce putain d'abattoir, qui me fait sourire à mon épouse quand j'ai ta main dans ma main, et puis la folle complainte reste quand même la plus belle chanson de tous les temps, ou Ménilmontant, l'âme des poètes, que je les cite, Reggiani, évidemment, Daniel Darc, Nougaro, Brel, Philippe Buty, Fersen, Fréhel et la Môme, Vian, Jonas, les frères Jacques ou Bachung, les Vampas, Ferrat, Bourville, Stromae, NTM, Anne Sylvestre et toujours Le Prest, et Barbara. Mais traînait. Traînait me sauve le travail et la vie, tous les jours que l'usine fait. Sans lui, sans son absolu génie, je suis sûre que je n'aurais pas tenu, que je ne tiendrais pas. Et aussi vrai que Barbara m'a rendu l'espoir en écoutant Le Mal de vivre, un soir, il y a longtemps de ça, où tout était si noir à en vouloir crever. C'est toi, Charles, comme un immense charlot, qui rend supportable l'enfer des temps modernes. Ce sont tes géniales ritournelles à bracadabrantes qui poussent mes carcasses, qui aident à supporter la douleur et attendre l'heure de la pause, puis celle de la débauche. C'est la java du diable quand rien ne va. C'est le piano de la plage quand j'espère du beau. C'est le revenant que je suis tous les matins au turbin. C'est mes jeunes années d'avant l'usine. C'est ma folle complainte que je ne cesse d'écrire.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûlent d'impatience deux jours avant Noël et sans aucune méfiance acceptent tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sang, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes, sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom.
Mon épouse, amour. Il y a ce poème d'Apollinaire, aux tranchées, qui m'obsède par sa beauté et sa justesse. Il y a cette chanson de Vanessa Paradis, qui fut la deuxième à ouvrir le bal de notre mariage, que j'ai fredonné toute la journée. Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée, il y a dans le ciel six saucisses, et la nuit venant, on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles, il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a la la la, si on prenait le temps, si l'on prenait le temps, il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Il y a ton anniversaire en ce jeudi saint. Il y a l'abattoir où je retourne demain matin et l'internat du lycée de filles où tu débauches à 23 heures quand je serai couchée depuis si longtemps. Il y a ce cadeau à t'écrire. Il y a des vaches à la bouverie qui attendent d'être tuées demain à la première heure. Il y a des gamins vénézuéliens ou malgaches qui préparent des couronnes de crevettes surgelées. Il y a Pierre qui aura renié par trois fois Jésus cette nuit avant le chant du coq, mais il jure encore à son maître que non. Il y a des fleurs et un paquet de ta belle-maman qui attendent ton retour. Il y a des ouvriers de nettoyage qui passent aux produits chimiques avec leur masque à gaz, comme chaque jeudi, le frigo des chevilles dans lequel j'ai bossé aujourd'hui et que nous avons vidé pour l'occasion. Il y a toujours dans une des listes dont j'essaie de me souvenir et qui me font passer le temps, un poète de la Pléiade dont j'oublie le nom. Pierre de Ronsard, Joachim du Bellay, Étienne Jodel, Antoine de Baïf, Rémi Bellot, Pontus de Thiard. Il y a que j'avais la force aujourd'hui et que j'ai soulevé sans peine de leur crochet la cinquantaine d'agneaux qui est partie en commande pour Pâques. Il y a l'usine de poissons panés qui tourne sans fin en 3-8 et des hommes et des femmes là-dedans qui attendent déjà la relève qui arrivera à 20 heures précises. Il y a notre amour. Il y a Pontus de Thiard qui est mon ancêtre et dont deux vers s'accordent si bien avec ses feuillets d'usine. Qu'incessamment, en toute humilité, ma langue honore et mon esprit contemple. Il y a notre chien Poc Poc qui sieste paisiblement sur le canapé après notre balade. Il y a la flemme de faire à manger. Pas de place pour se garer près de la boulangerie pour acheter le pain du sandwich. Et du coup, ce sera jambon et livaro sans pain. Il y a un ouvrier à la bouverie qui nettoie les bouses que laissent les vaches en attente d'être tuées demain. Il y a ce faux filet frites sauce béarnaise que j'ai mangé à midi à la cantine avec une badoie pour 4,85 € de retenue sur mon salaire. Il y a des gens qui à cette heure mangent des poissons panés, des crevettes ou des steaks sans imaginer. Il y a qu'en sachant, je mange des steaks. Il y a que tout cela est assez macabre et devant une aussi horrible évocation, je ne sais qu'ajouter. Il y a que nous ne nous verrons pas pour ton jour de fête, mais demain pour un week-end de 3 jours et demi. Il y a le cœur final de la Passion selon Matthieu de Bach que j'écoute en t'écrivant ces mots. Il y a du pain rassis que je viens de retrouver pour me faire un petit sandwich. Il y a mes ongles sales, mon corps puant que je ne sens même plus et la douche que je n'ai pas encore prise. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y a dans le monde des hommes qui n'ont jamais été à l'usine ni à la guerre. Il y a là les mystères, les silences. Il y a que je paierai cher demain ce texte écrit si tard. Il y a des usines que je ne connais pas et qui produisent des haricots verts, des armes, des chips, des voitures, du nitrate, du chocolat en poudre, du tissu, du papier mâché ou d'Arménie et tous les gens qui sont dedans. Il y a mon mal de dos et la fatigue autant que la joie. Il y a qu'il faut le mettre, ce point final, à la ligne. Il y a ce cadeau d'anniversaire que je finis de t'écrire. Il y a qu'il n'y aura jamais, même si je trouve un vrai travail, si tant est que l'usine en soit un faux, ce dont je doute. Il y a qu'il n'y aura jamais de point final à la ligne. Pas de point final à la ligne, mais il y a un terme à cette émission. Avant cela, sachez que vous avez entendu dans cette seconde partie 3 duos. Donc la flûtiste Naysam Jalal avec successivement les saxophonistes Thomas de Pourquery et Irving Arcao. Et pour terminer, le tromboniste Robinson Coury. Tous ces titres sont issus de l'album intitulé « Souffle », sorti le 30 mai dernier, juste avant le texte final du livre de Joseph Pontus, écrit à la façon du poème « Ilia » d'Apollinaire. Vous aurez évidemment reconnu la chanson « La folle complainte » de Charles Trenet. Si ces extraits vous ont donné envie de lire plus avant l'ouvrage de Joseph Pontus, sachez qu'il est édité dans la collection Folio. Pour ma part, je vous donne rendez-vous au jeudi 16 octobre prochain pour une nouvelle émission. À bientôt. manque pas de poésie. Christine Fusarelli.